Nous sommes donc avec William Blanc, donc William Blanc, rédacteur de Metaluna, et qui a signé un article dans ce nouveau numéro qui s'appelle « Peplum is not dead », un état des lieux. Alors, peux-tu nous présenter le dossier que tu as rédigé, justement ?
Oui, pas de problème. Alors, en fait, le dossier Peplum, donc c'est un article qui est suivi aussi d'un bonus, un article bonus qui va être mis en ligne sur le site de Metaluna. On s'interrogeait un peu sur la limite du genre. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, il y a une espèce de renouveau du peplum. En gros, depuis Gladiator, hein, depuis le film de Ridley Scott en 2000. On peut trouver que le genre là se renouvelle pas trop. C'est en fait, on a l'impression que Hollywood, notamment, essaie de reproduire un genre un peu mythique des années 50-60, mais sans trop se renouveler. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a interrogé, en fait, qu'est-ce que c'était que le peplum, et est-ce que, en fait, bah, le genre était pas un peu épuisé, en l'occurrence, aujourd'hui, dans sa forme actuelle.
Et tu penses qu'il est épuisé ou pas, alors ?
Ah oui, quand même, quand tu vois la plupart des films qui sont... Il y en a qui sont très bien. Moi, par exemple, je prends Agora, qui est une espèce d'anti-peplum, donc d'Alessandro Amenabar, qui date de 2009, si j'ai bonne souvenance, ou 2006, mais en l'occurrence, c'est là pour le coup, c'est assez intéressant. Il y a d'autres, il y a Alexandre aussi
Oliver Stone,
voilà, qui est très bien aussi. Mais en l'occurrence, à part ça, le genre se renouvelle pas trop, en fait. Hein. On a l'impression d'un truc qui est complètement épuisé, dans lequel on va surenchérir au niveau du numérique pour pallier, en fait, à une absence totale de scénario et d'originalité.
Oui, le syndrome Zack Snyder, on va dire.
ouais, alors moi, c'était... Alors, ça, enfin, ouais, c'est clair qu'en plus, 300 en plus par-dessus le marché, il y a un fond idéologique qui est pas très clair, hein, donc... Et ultra réac et tout, hein, mais en l'occurrence, là, par-dessus, quand on voit les dernières grosses productions peplumesques, type Le Choc des Titans, bon, c'est vraiment du vide numérique, en fait. Hein, voilà, quoi.
C'est très mauvais.
C'est assez ennuyeux, parce qu'au contraire de ça, c'est ça qu'on a voulu montrer dans le dossier, le peplum, c'était une école, en fait. Hein, alors, le premier peplum, l'âge d'or du peplum, donc, 19, enfin, qui a commencé au début du 20e siècle, et qui a connu son apogée avant la Première Guerre mondiale avec un film qui est hyper connu, qui s'appelle, enfin, en tout cas pour les fans de peplum, qui s'appelle Cabiria, qui était une super production, vraiment. Alors, on n'est vraiment pas du tout dans le bis à l'époque, hein, d'accord, le peplum, c'est pas du... Enfin, le terme n'existe pas encore à l'époque, mais on n'est pas du tout dans le bis, c'est vraiment une super production absolument phénoménale. Cabiria, ça va inspirer Griffith, hein, quand il va faire Intolérance, hein, donc ça va même le vexer, ça va tellement le vexer qu'il va vouloir faire mieux que Cabiria. Cabiria, c'est une super production italienne, dans laquelle on va voir d'ailleurs pour la première fois Massiste. Donc, voilà, un héros de peplum, un peu une espèce un peu comme un simili Hercule. Et dans Cabiria, vraiment, va y avoir, voilà, des moyens absolument extraordinaires. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que dans Cabiria, il va y avoir des... Enfin, le scénario va être, par exemple, fait par Gabriele D'Annunzio, qui était un poète très connu de l'époque, hein, donc c'était pas n'importe qui. Hein. Pareillement, le réalisateur de Cabiria va être à la pointe du progrès technique, parce que c'est sur Cabiria, a priori, qu'a été inventé le travelling. Donc, comme quoi, le peplum, c'était pas du tout une espèce de genre dont on a un peu une image très déformée aujourd'hui, qui serait un genre très très Z, voilà, avec uniquement des mecs hyper musclés, voilà, quoi, en train de combattre des pieuvres en caoutchouc.
D'ailleurs, le peplum italien, enfin le peplum, d'ailleurs, terme inventé par la bande de Tavernier, hein, ouais. Tu le rappelles dans l'article, mais aussi, on se rappelle par exemple du Spartacus de Kubrick, mais on se rappelle peu du Spartacus de Ricardo Freda qui est très bon.
Oui, bien sûr. Bah, en plus, dans le peplum, c'est comme dans tout le genre un peu populaire italien, il y a toujours, en fait, un moment. Alors, même si évidemment les codes sont très stricts, même si parfois il y a un côté assez réactionnaire, assez nationaliste dans le peplum, ça, c'est Florent Fourcard dans son livre qu'on conseille d'ailleurs. Hein, donc dans son livre, Florent, il le montre bien que c'était aussi un moyen pour l'Italie de qui a plus ou moins, alors, qui a gagné la guerre, mais qui a quand même été du côté de l'Axe au début de la guerre. C'était un moyen pour affirmer une espèce de fierté nationale, le peplum. Mais quand même, dans le peplum, t'as toujours, c'est un peu comme dans le western, d'ailleurs, Spaghetti, hein, parce que la plupart des réalisateurs, même des acteurs de peplum, par exemple, le premier d'entre eux, c'est Léon, hein, vont après faire du western Spaghetti. Et maintenant, ces genres-là, qui sont des genres populaires, ils vont passer quand même des messages assez alternatifs, assez subversifs, quand même, dedans. Donc pas du tout, c'est pas du tout le... Tu peux me rappeler la question, parce que je suis parti tout seul.
Au départ, je faisais un comparatif entre Spartacus de Freda et de Kubrick, en fait, voilà.
Ouais, mais même Spartacus... Alors, le Spartacus de Kubrick, c'est intéressant, parce que, enfin, tout... Alors, là, par exemple, il faut un peu différencier le péplum italien de l'épique hollywoodien. Le péplum italien, c'est vraiment une école. C'est-à-dire que là, ils vont en produire, je sais pas, enfin, entre 48 et 64... c'est pareil, c'est Florent Fourcard qui fait une espèce de décompte, et je pense qu'il n'est pas exhaustif, même s'il a vraiment vu énormément de films, je pense qu'il n'est pas totalement exhaustif, mais il y a plus de quasiment 200 films, il en compte 185, on peut en ajouter au moins une quinzaine facilement, donc juste en péplum italien, d'accord, donc là c'est vraiment une école, ça tourne, c'est une usine, d'accord. Par contre, les épiques hollywoodiens, c'est autre chose, hein, parce que là c'est généralement des aventures très personnelles, avec des producteurs un peu fous. Par exemple, le producteur, on en parle, hein, le producteur de la chute de l'Empire romain, d'Anthony Mann, qui a été fait en 1964. Le type, il a investi des sommes folles pour reproduire le forum de Rome, de la Rome antique, à côté de Madrid. Donc, je veux dire, c'est un peu des aventures personnelles qui sont en dehors des studios. Donc, il faut un peu différencier le péplum italien de l'épique hollywoodien, où il y a peut-être un peu plus de moyens aussi. Mais de toute façon, même dans les pics hollywoodiens, il y a parfois un message un peu subversif, parce que comme dans le Spartacus de Kubrick, il y a quand même des gens qui ont, ceux qui ont participé au scénario, certains d'entre eux étaient des anciens qui ont été blacklistés à Hollywood, hein, donc il y a un aspect très, pas marxiste, hein, mais presque, hein, quand même, dans ce Spartacus hollywoodien.
Pour les auditeurs, hein, je rappelle le livre de Florent Fourcard, qu'on avait chroniqué dans l'émission d'ailleurs, Le péplum italien, grandeur et décadence d'une antiquité populaire, donc de Florent Fourcard aux éditions IMO. Alors tu parles aussi dans ton article des forts outils, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Alors ouais, c'est hyper intéressant, et ça, en plus, bon, alors, vu que l'article, on n'avait pas une niveau de la place, mais fallait quand même... Le bonus est surtout consacré aussi à ces forts outils. Donc les forts outils, c'est pareil, c'est quelque chose qui est attaché à l'image du péplum. Ce sont les hommes forts, hein, donc l'espèce de grands balèzes type Hercule, Massiste et tout. Et le premier d'entre eux, en fait, c'est Steve Reeves, qui est un peu une légende du péplum. Mais ça, c'est on associe constamment le péplum à ça. Donc en gros, tu sais, c'est un peu comme la vieille vanne, dont y a-t-il un pilote dans l'avion, est-ce que tu aimes les films de Gladiator, voilà. Donc ça fait un peu ça, quoi. Et en l'occurrence, même en Italie, jusqu'en 1957, la plupart des films ne font pas appel, enfin ne sont pas centrés sur un homme fort, un homme balèze, quoi. Donc un homme tout en muscles. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est à partir de 57, à partir de l'Hercule de Steve Reeves, qui va faire un carton, donc c'est les travaux d'Hercule,
Pietro Franceschi, si je ne m'abuse.
Ouais, c'est ça, ouais. Et alors, il y avait en plus, il y avait Mario Bava qui était chef op ou chef de la photo, enfin voilà, directeur de la photo sur le... Bon, quoi qu'il en soit... Bava qui va aussi faire des péplums d'ailleurs, hein. Donc c'est à partir de ce film là que ça va faire un carton. Et ce qui est intéressant, c'est que ça appelle deux analyses. La première, c'est que en fait, tous ces péplums là, ils vont inspirer, enfin, ces péplums d'hommes forts, hein, d'hommes balèzes, ça va inspirer pas mal d'autres films. Évidemment, la série des Conan. Tout ce qui est Conan, la fantasy un peu musclée, y compris Barbarians, hein, qui est un film italien un peu Z, mais qui est assez rigolo, tout ça, ça va être inspiré des péplums. D'ailleurs, dans le Conan de Milius, en fait, il va y avoir une scène, la scène où Conan est en train de pousser, tu sais, une espèce de roue, d'accord? C'est une allusion, en fait, à Cabiria. Et Conan de Milius a été produit par Dino De Laurentiis, qui est un ancien, qui est un vétéran du péplum aussi. Donc, ça va donner toute cette ligne-là. Ça va donner aussi la lignée des films d'action. Parce que dans les films d'action, c'est dans les films d'action que s'il y a pu y avoir des films d'action avec notamment des culturistes ou des gens un peu issus du milieu de la un peu sportif, type Stallone, Schwarzenegger et tout, c'est parce qu'il y a eu des péplums, il y a eu des hommes forts avant. Parce que les péplums italiens, c'est les premiers, à part peut-être Tarzan avec Johnny Weissmuller, c'est les premiers films où on va vraiment mettre en avant, non pas l'acteur, mais avant tout le culturiste ou en tout cas le sportif. D'accord. Ça, c'est quand même vraiment intéressant, c'est une rupture par rapport à ça. Et pareil, ça va inspirer, et ça, bon, ça c'est une théorie que moi je défends, même si j'ai pas grand-chose pour l'étayer, mais c'est assez intéressant de voir que les films de Kung-Fu, ça va être aussi en partie inspiré des péplums, notamment quand on prend le plan de la Fureur du Dragon avec Bruce Lee, la bataille finale qui se déroule dans le Colisée. Le film, il est de 72, c'est le seul film réalisé totalement par Bruce Lee, et c'est intéressant de voir que quand même, il y a, je pense que Bruce Lee, il fait quand même un clin d'œil dans ce film au péplum, hein. Et la preuve, c'est que voilà, il apparaît, il combat évidemment torse nu et tout, enfin voilà, hyper musclé et tout, donc ça c'est quand même assez intéressant.
Et il arrache les poils de Chuck Norris.
Il arrache les poils de Chuck Norris. Alors après, il y a tout un truc, hein, ça c'est vraiment l'homme, enfin un peu, c'est un peu le colonisé l'ancien colonisé, l'ex-colonisé qui se venge, mais en tout cas qui s'affirme à nouveau face au colonisateur, hein, donc c'est assez intéressant, quoi. Et ben là, dans ces hommes forts, dans ces forts outils, alors Florent lui dit, voilà, c'est parce que, alors il dit, bon, ça parle au public italien, parce que le forts outils, c'est aussi un immigrant, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup le public italien à l'époque, c'est souvent des gens qui viennent de l'Italie du Sud, qui sont des paysans, qui sont un peu paumés dans les villes et tout. Donc ça, il y a cet aspect-là. Mais il y a aussi l'aspect, en fait, où, bah, concrètement, c'est un type qui a... Alors ça, Florent aussi en parle un peu, je pense, mais il y a aussi l'aspect... voilà, c'est l'homme fort, l'Hercule et tout, c'est un type qui gagne, qui réussit uniquement par sa force physique. Tu vois ? Et ça, ça parle peut-être vraiment un public un peu prolo et tout, bah, pour qui, bah, concrètement, qui a comme seule richesse que sa force physique. Hein, si tu vois ce que je veux dire, hein, donc... et ça leur parle d'autant plus que les acteurs comme Steve Reeves, comme Alan Steele après, comme plein d'autres, c'est des gens qui vont réussir uniquement par leur force physique, dans la vraie vie, quoi. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui a dû plaire vachement au public masculin de l'époque, quoi. Et ça plaît d'autant plus qu'on est quand même au début de la révolution sexuelle, et bah concrètement, bah, face à une affirmation des femmes, bah, y a certains hommes, même beaucoup d'hommes, qui ont besoin de se rassurer un peu avec une image un peu de surviril, quoi. Et là, clairement, bah, le péplum, il arrive à point nommé, quoi. Voilà, quoi. C'est des hommes hyper forts et tout, hyper musclés, qui sont au-delà de l'homme, quoi. Parce qu'évidemment, ils ont une musculature qu'on voyait pas avant, en fait, dans les films. Quand on voit, parce qu'il y avait des massistes, par exemple, dans les années 20, hein, bah, Cabiria, il y a eu une série de massistes. Le massiste, à l'époque, c'est un homme fort, c'est pas un homme hyper musclé, hein. C'est un homme en tout cas, il est pas aussi musclé que pouvait l'être Steve Reeves. Il n'y a pas une plastique.
D'accord, ok. Bah écoute, on te remercie pour toutes ces analyses. On peut rappeler aussi rapidement que tu bosses aussi sur un festival dont on reparlera dans une prochaine émission, ouais, qui n'a pas forcément à voir avec le péplum, mais qui s'appelle Bobine et Parchemin.
Alors ça a un peu à voir avec le péplum, mais c'est en effet sur des films, médiévaux, en fait, hein, qui datent du Moyen-Âge. Voilà. Alors juste un dernier mot pour finir sur péplum, quand même.
Vas-y, je t'en prie, c'est parce qu'on est un peu cut, c'est pour ça, vas-y, je t'écoute.
Voilà, on va remercier, je voulais surtout remercier Michel, donc évidemment Florent Fourcard, qui a répondu à pas mal de questions, Michel Eloi, qui est un peu le spécialiste du péplum, il a un site qui s'appelle peplum.info.net, si j'ai bonne souvenance, donc c'est vraiment le spécialiste du péplum, qui en a absolument tout. Je voulais aussi remercier deux auteurs de BD dont on n'a pas eu trop le temps de parler malheureusement dans l'article, mais qui ont répondu pas mal de questions aussi. Simon Roca, qui a écrit la série et qui a scénarisé la série Vae Victis, donc une série péplum, hein, enfin, qui se passe pendant la guerre des Gaules, et Marc Jailloux qui reprend la série des Alix. Voilà, donc c'est des gens qui ont été suffisamment gentils pour répondre à toutes les questions que je lui avais posées. Voilà. Et puis en effet, bah, Bobine et Parchemin, c'est fin novembre, ça sera au cinéma Le Desperado.
D'accord, voilà. Et tu peux rappeler les coordonnées de ton site ?
Oui, alors c'est Bobine et Parchemin, Bobine comme Bobine au pluriel, et donc ET, Parchemin au pluriel, tout attaché, .fr, voilà. Merci.